Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du journal sur Radio Kapi. Voici le principal titre du jour. Nouveau rebondissement dans l'affaire assassinat du journaliste Patrick Adonis. Quatre nouveaux suspects présentés au gouverneur du Haut-Katanga jeudi à Lubumbashi. Pendant ces temps, le cerveau de ces drames reste en cavale. Le service de sécurité intensifie leurs recherches pour le retrouver. Consultation politique en RDC. Les partis politiques et regroupements de l'Union sacrée réaffirment leur volonté de voir la RDC se doter d'un gouvernement capable de redonner la dignité aux Congolais et de mettre fin aux velléités agressives du Rwanda. Ne manquez pas les détails de ces consultations cruciales dans ce journal. 2 500 000 dollars américains, une première tranche d'indemnisation reçue par l'église catholique de la Tchopo. Cette somme issue du fonds de réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC vise à compenser le dommage subi lors de la guerre de 6 jours. L'autorité épiscopale locale fait le point sur la répartition et l'utilisation de ces fonds par les entités bénéficiaires. L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani nous en parle dans ce journal. Il est notre invité. Ne manquez pas cette interview sur Radio Kapi. C'est tout pour le titre. Je le disais tout à l'heure, rebondissement dans l'affaire du meurtre du journaliste Patrick Adonis. Quatre nouveaux suspects ont été présentés hier jeudi au gouverneur de province. Ils viennent s'ajouter aux autres membres de la bande déjà jugés, condamnés et emprisonnés. Pendant ces temps, le cerveau de ces drames et leader de ce malfrat reste en cavale. Le service de sécurité assure qu'ils poursuivent activement le recherche. Le point avec Jean Gandou depuis Lubumbashi.
Ils sont quatre arrêtés respectivement dans les communes de Kenya et de Katuba. Deux sont accusés d'avoir participé activement au meurtre du journaliste. Les deux autres sont poursuivis pour détention et vente du téléphone de l'illustre disparu. Pour les services de sécurité qui les a présentés, durant leur audition, ils sont passés aux aveux en reconnaissant leur présence sur les lieux du drame et leur implication dans la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi. Interrogés à ce sujet par le gouverneur de province, tous ont rejeté les faits portés contre eux, tout en affirmant qu'ils ont reconnu à cause des actes de torture qu'ils ont subis en détention. Malgré cela, le gouverneur Jacques Kiaboula rassure les journalistes présents.
Les enquêtes se poursuivent. Ça sous-entend que nous continuons, bien que le jugement ait été rendu, mais nous continuons pour qu'on mette la main sur les tout derniers suspects qui est en cavale. Les services, merci beaucoup pour ce travail. Ça montre que, effectivement, les services de sécurité fonctionnent comme il se doit.
Notons que le mois dernier, 8 personnes accusées d'avoir participé à ce drame était condamné à la peine capitale. Patrick Adonis Numbi était tué dans la nuit du 7 janvier 2025 par des inconnus à coups de machette. Son corps était retrouvé à la hauteur de l'arrêt Kabolela, au quartier Jekamine, dans la commune de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
À Kinshasa, les partis politiques et autres regroupements de l'Union sacrée tels que l'ANB de Guy Luando, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS Kibasa et l'AABG de Guilin Nyembo se sont également exprimés dans le cadre des consultations politiques en cours au pays. Ils ont unanimement réaffirmé leur volonté de voir la RDC disposer, après ces consultations, d'un gouvernement capable de redonner la dignité aux Congolais, notamment par le billet d'une armée qui mettra fin aux velléités agressives du Rwanda contre la RDC. Ils se sont exprimés hier après leurs échanges avec le conseiller spécial Eberandé. Billy Yvan Lutumba nous en parle.
En nous portant au pouvoir, le peuple congolais attend de nous de recouvrer l'intégrité territoriale, la pacification du pays et la réaffirmation de la souveraineté, clame Guy Luando de l'ANB.
Ce qui compte à la fin de cet exercice, c'est de pacifier le pays. On n'est pas là à la recherche de postes. Nous avons de grandes attentes au-delà de la sécurité, au-delà de la problématique de la réaffirmation de notre souveraineté. Mais il faut régler les problèmes de la population. C'est ce qui importe. Et nous sommes là pour parler intérêt de la population, pas pour nous. C'est ça mon souhait, que ces consultations aboutissent à ce que la population trouve sa part.
Fidel Babala s'exprimant pour le compte du MLC et tous ses alliés déclarent que l'heure est venue où la RDC doit disposer d'une armée véritable sentinelle de l'État congolais.
Ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons un gouvernement qui puisse agir et surtout donner à ces pays une armée qui soit une véritable sentinelle de l'État, qui protège, qui rende la dignité aux Congolais.
Pour Augustin Kibasa, les affres de la guerre ne s'abattent pas que sur les membres de la majorité. Il interpelle ainsi l'opposition en ces termes.
Les opposants aussi doivent noter que ce n'est pas une guerre qui est faite au président de la République. Quand ça crépite à l'Est, quand on tue les gens, ce ne sont pas soit des gens de la majorité ou les gens de l'opposition. On tue les Congolais. Je suis plus que convaincu qu'on finira par trouver une formule qui va faire en sorte que les uns et les autres comprennent qu'il ne s'agit pas de l'opposition de la majorité, il s'agit vraiment de protéger ce pays.
Signalons qu'après ces rencontres avec l'Union sacrée, les consultations politiques s'ouvrent à l'opposition, à la société civile, aux personnalités et à la diaspora dès ce jour, signale la cellule de communication.
Lobbying pour l'application de la résolution 2773 de l'ONU et des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda pour une paix durable en RDC, le président du Sénat Samalou Kondé a échangé hier à Bruxelles avec le président du Sénat belge Vincent Blaudel. Après son passage au Sénat français à Paris, Jean-Michel Samalou Kondé poursuit son plaidoyer à Bruxelles pour instaurer une paix durable dans l'est du pays. Les membres de Commission Relations extérieures, Défense, Sécurité et Frontières qui l'accompagnent ont présenté la version congolaise du conflit dans l'Est. Hilde Wotman, députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, a exprimé sa détermination à soutenir la RDC contre cette agression rwandaise. Michel Kifindangoy nous fait le point.
Avec le président du Sénat belge, Vincent Blondel, des échanges ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC. Les parlementaires belges ont reconnu qu'il y a actuellement une dynamique qui met à nu les mensonges du Rwanda, restés depuis plusieurs années étouffés. Pour le président de la Commission Relations extérieures du Sénat, la guerre que subit la RDC est économique, due à une exploitation illicite et du pillage flagrant des ressources naturelles de la RDC. Christophe Lutundula.
Nous n'allons pas penser que la défense des intérêts de notre pays sera toujours assumée par l'étranger. Il y a l'agression rwandaise, ça se traite aussi à l'international.
Le président de la Commission Défense et Sécurité prône quant à lui pour la dotation à la RDC d'une armée forte. José Mpanda.
Doter la RDC d'une défense forte qui permettra que nous puissions nous considérer et sécuriser notre pays. Nous le faisons. Et si les plans militaires, les doter des moyens qu'il faut, mais également en préconisant la coopération militaire.
Satisfait du plaidoyer mené en Europe, la délégation congolaise promet de faire le suivi au niveau du gouvernement afin que tous les travaux accomplis puissent avoir des effets dans les jours à venir.
Dans la province du Kwango, le vice-ministre de la Justice et Contentieux International, Samuel Mbemba, appelle la population de Bukangalonzo à une vigilance accrue lors de son retour de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, dans le cadre de la campagne contre l'agression rwandaise. Il a encouragé les jeunes de cette région à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale menacée par les agresseurs et leurs alliés du M23 et de l'AFC, c'est au cadre du parti Convention pour la République et la Démocratie, a également prôné la cohésion et l'unité nationale. Le propos de Samuel Mbemba recueilli par Irène Mboma Luzolo.
Notre pays est agressé par les ennemis de la paix. Les Rwandais sont en train d'attaquer la République démocratique du Congo. Ils veulent annexer une partie de notre territoire. Est-ce que nous allons l'accepter? Il faut que tout Congolais puisse se mettre debout, se battre pour ces pays. Ici à Bukangalonzo, si vous voyez un inconnu, il faut bien les contrôler, voire les surveiller. Je demande aux populations de Bukangalonzo de veiller pour ne pas laisser les passages aux agresseurs. Que les ennemis du pays ne passent pas par vous. Que les jeunes puissent s'enrôler dans l'armée pour mieux défendre notre pays. Les papas, les mamans et les compatriotes, soyez vigilants nuit et jour, comme c'était à l'époque où tout Congolais avait fait preuve de vigilance. C'est le message que le chef de l'État a envoyé à travers la première ministre Judith Suminwa dans la province du Kwango.
L'Ituri a soif de paix, une paix indispensable pour permettre aux milliers de déplacés de retourner dans leur village. C'est le message central exprimé par les différentes couches sociales et le caucus des parlementaires de l'Ituri lors de leurs échanges avec le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Tchaligonza, en mission dans la province de l'Ituri depuis le lundi dernier. Jeunes, confessions religieuses, sociétés civiles et élus provinciaux ont tous exprimé leurs préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire depuis l'arrivée des troupes ougandaises dans le territoire de Djougou. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile en Ituri, a souligné l'importance de rétablir la sécurité pour permettre le retour à la normale. Suivez son intervention.
La population de l'Ituri a besoin de la paix et cette paix ne pouvait être que possible lorsque les groupes armés cesseront de tuer la population, de piller les biens de la population, de violer les femmes, tuer les enfants, incendier les véhicules et aussi de cesseront de voler les cultures déjà dans les champs. Codeco a accueilli UPDF avec les coups des armes et ces affrontements Codeco UPDF ont continué jusqu'au ce matin. Alors, pour la population de l'Ituri, c'était une question de curiosité de savoir auprès du chef d'état-major général adjoint si réellement UPDF était invité par l'État congolais pour lui prêter main forte.
Une centaine d'entreprises du portefeuille de l'État ainsi que de services et établissements publics se trouvent en situation irrégulière concernant leurs états financiers et sont invitées à se justifier selon un communiqué du parquet général. Près la Cour des comptes, certains responsables de ces entreprises ont violé les principes de reddition des comptes pour les exercices 2022-2023. Le parquet général précise qu'au terme de l'article 30, alinéa 2 de la loi organique du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, les entreprises du portefeuille, les établissements et le service public doivent transmettre à la Cour leurs comptes annuels dans les 3 mois suivant leur adoption par l'Assemblée générale, le conseil d'administration ou l'organe tenant lieu. Cela n'a pas été respecté comme nous le rapporte Jeff Ngoy.
Il ressort du rapport établi par le greffe central de la Cour des comptes que pour l'exercice 2022, 5 entreprises du portefeuille sur 30 ont déposé leurs états financiers à la Cour des comptes. S'agissant des établissements publics, 1 sur 75 n'a déposé d'état financier. Pour l'exercice 2023, 3 entreprises du portefeuille sur 30 ont transmis leurs états financiers à la Cour. Quant aux établissements publics, 9 sur 75 ont déposé leurs états financiers, indique le communiqué. Sur la base de ces rapports, le procureur général invite les différents responsables des entités concernées en vue de les auditionner sur les causes de la non-transmission des états financiers à la Cour des comptes. Selon Salomon Toudieché, les résultats de ces éditions détermineront l'action qui sera menée par le parquet général. Il s'agira soit de déférer les responsables de la non-transmission des états financiers devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, et celle-ci se devra de statuer sur les fautes de gestion, soit le procureur pourra décréter un non-lieu à leur endroit après les auditions.
Femmes et médias, un levier pour le droit, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est autour de cette thématique que la 6e édition de la Foire des femmes des médias s'est tenue hier jeudi à Kinshasa. Cet événement a été co-organisé par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, la Fédération de radio des proximités de la RDC et l'ONG Handicap Zéro avec le soutien de l'ONG Internews et de l'ambassade de Suède. De chacun abordant 4 thématiques ont été organisées pour débattre du sujet. Des visites guidées, des stands des organes de presse ont également eu lieu. Que retenir de ces assises? Gloria Lutula Kitoko et Ben Chokuta nous expliquent dans ce reportage.
Cette force veut être une plateforme qui célèbre la femme des médias avec un focus sur la contribution de celle-ci dans le domaine de l'information et le débat public. Sergine Rema, présidente de l'ONG Handicap Zéro, souligne l'importance de ces assises.
Dire que c'est un événement très important, quoi, parce que ça valorise la femme des médias, cette femme qui informe, qui communique, parce que vous savez bien, une société sans communication, ce n'est pas une société qui se développe.
Beaucoup de femmes journalistes saluent cette initiative. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, qui a donné le coup d'envoi de cette foire, salue le mérite des femmes journalistes.
Pour parler d'autonomisation, il était donc de mon devoir de venir, comme chaque année, honorer cette activité qui permet de mettre en lumière l'action des femmes. Nous avons eu l'occasion de revenir, par rapport au contexte de la guerre que nous connaissons, sur la nécessité des femmes des médias, de se mobiliser, notamment à travers la campagne congolaise Téléma, pour nous aider à lutter contre toute forme des discours, des discriminations, des discours, des divisions.
Cette sixième édition de la Foire des femmes de médias s'est clôturée avec la présentation d'une feuille de route commune signée entre les médias et les organisations de la société civile.
À Beni, au Nord Kivu, une femme se distingue dans un métier encore largement dominé par les hommes. Imelda Mbambu, sexagénaire, est mère de 9 enfants et la seule femme conductrice des mototaxis de la ville. Depuis plus de 10 ans, elle parcourt les routes, défiant les préjugés et prouvant que ce travail peut également être une opportunité pour les femmes. Son parcours suscite l'admiration tant de ses clients que de ses collègues masculins. Guylaine Kassassia pour le reportage.
Âgée de plus de 60 ans, Imelda Mbambu, mère de 9 enfants et conductrice de mototaxi, elle effectue ce travail où les clients l'indiquent à Beni, à Butembo, voire même dans la province voisine de l'Ituri. Quelle est la motivation d'Imelda Mbambu?
J'ai trouvé que la vie n'est pas facile à mener. Voilà pourquoi j'ai appris à conduire la moto. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai acheté ma propre moto. Dans les temps, j'ai appris plusieurs petits métiers comme la vente des braises. J'ai même fait de la couture. Mais j'ai trouvé que cela n'était pas rentable pour la survie de mes enfants.
Imelda Mbambu dit mener actuellement une vie aisée grâce à ce métier de mototaxi.
Le travail de mototaxi, c'est un beau travail parce qu'on ne peut jamais manquer à manger. Grâce à ce métier, j'ai acheté un grand champ à automobile. J'ai même déjà construit une maison à dire. Même la scolarisation de mes enfants, c'est grâce à ce travail.
Son travail est apprécié par d'autres conducteurs hommes, comme en témoigne ici Jimmy Paloukou.
Nous apprécions beaucoup sa façon de conduire. Elle maîtrise et respecte bien le code de la route, comme elle conduit sur différents axes. Elle a vraiment de l'expérience.
Elle dit avoir appris ce métier à d'autres filles, mais celles-ci n'ont jamais voulu jusque-là se lancer dans la course. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Tous les partis politiques au Niger ont été dissous par ordonnance du général Abdourahman Tiani. L'annonce a été faite jeudi 26 mars lors de la cérémonie où le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été proclamé président pour une période de 5 ans modulable 20 mois après le renversement de Mohamed Bazoum. Ces mesures font partie des recommandations des assises nationales tenues le mois dernier. Depuis cette annonce, c'est le silence du côté des états-majors des partis politiques nigériens dans un pays où l'espace civique s'est fortement réduit. Plus de 30 ans après l'instauration du multipartisme, le Niger comptait 172 formations politiques suspendues depuis le coup d'État de 2023. Elles n'ont pas été associées aux assises nationales. Un membre du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme voit dans cette décision une façon de remettre de l'ordre dans une offre politique pléthorique. Parmi ces formations, beaucoup n'étaient que des coquilles vides, explique un analyste. Il ajoute qu'il existait une réelle déception de l'opinion nigérienne envers les partis, mais que leur dissolution ne réglera pas le problème politique. Un observateur de la société civile exprime sa crainte de voir s'installer une pensée unique et la disparition de toute opposition.
L'invité.
5 mois après avoir reçu de main du chef de l'État un chèque de 2 500 000 dollars américains représentant la première tranche de l'indemnisation du Frivao à l'archidiocèse de Kisangani, l'autorité épiscopale locale fait le point sur la répartition et l'utilisation de cette somme par les entités bénéficiaires en respectant le devoir de redevabilité. Hier, lors d'une conférence de presse, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, également vicaire général chargé de l'économie et de finances, a présenté un bilan détaillé. Pour en savoir plus, écoutons l'entretien de Monseigneur Léonard Ndjadi avec Jacques Moukonkolé.
Monseigneur Léonard, bonjour.
Bonjour.
À mi-parcours, quelle évaluation pouvez-vous faire du processus d'indemnisation?
L'évaluation est positive, étant donné que toutes les entités bénéficiaires ont été servies. Elles ont commencé des travaux. Les travaux sont en cours d'exécution et donc nous regardons déjà vers la fin de cette première tranche de travaux que nous avons entamés. L'évaluation est donc vraiment positive et satisfaisante pour nous tous.
Sur quelle base, quels critères avez-vous décidé de l'indemnisation de telle ou telle autre entité de l'Église catholique?
Et la première note la plus importante est de vérifier, d'authentifier les entités qui ont été réellement touchées et qui apportent des preuves, des témoignages qui corroborent effectivement qu'elles sont victimes. Elles ont été victimes de la guerre des six jours. Deuxièmement, il y a la contre-expertise du bureau chargé d'expertise immobilière qui va sur terrain pour vérifier si ce que les entités bénéficiaires ont déclaré est vrai. Et donc, c'est cela la deuxième note. Ce sont sur ces bases-là sur lesquelles nous nous sommes fondés pour pouvoir indemniser les entités concernées.
Monseigneur, comment avez-vous procédé pour répartir cette somme?
On a procédé selon le dommage, en évaluant les dommages de chaque entité. Il y a comme la Caritas qui évalue à 8 000 $ ce qu'il présente comme dommage. Mais il y a par exemple la Procure, par exemple la Maison Monsengo, qui ont eu des dommages très grands. Du coup, on a évalué à 300 000 pour la Procure, 300 000 dollars, et 300 000 aussi pour la résidence Monsengo. Et donc, on a évalué selon les dommages subis par chaque entité.
Est-ce que les travaux sont en cours actuellement? Qu'est-ce qui se fait exactement sur terrain?
Comme vous avez vu projeter, tous les chantiers sont en cours d'exécution. Et c'est avec une grande satisfaction puisque les entreprises de construction qui ont été sélectionnées sont compétentes et donc cela permet d'obtenir à la fin de ces travaux de la qualité et de la durabilité.
Monseigneur, avez-vous prévu un mécanisme de contrôle pour le suivi de l'utilisation de cet argent?
Oui, il y a un mécanisme de contrôle. D'abord au niveau de l'archevêché. Et donc la commission rend compte à l'archevêque, mais aussi au collège des consulteurs, qui est comme le sénat de l'archevêque. Après, nous rendons compte aussi, comme nous venons de le faire, auprès de médias. En même temps, les travaux qui sont réalisés par chaque entité sont vérifiés par l'équipe de l'économa, qui envoie les chargés de projet avec une fiche de vérification des travaux. Donc il y a un contrôle et sur le plan financier, il y a un contrôle aussi sur le plan d'exécution des travaux.
Monseigneur, à quel moment estimez-vous que les travaux seront achevés?
Les prévisions annoncent la fin des travaux fin août. À la fin du mois d'août, nous pensons terminer les travaux, élaborer les rapports finaux documentés et envoyer à la coordination nationale de Fribao, mais aussi à la présidence et à la nonciature apostolique.
Il reste, Monseigneur, la dernière tranche de la part de Fribao.
Et nous sommes en dialogue avec Fribao pour que, à l'issue des premiers travaux, nous puissions obtenir la deuxième tranche afin de servir les entités qui ont été touchées, mais qui, dans cette première tranche, n'ont pas été servies. Voilà pourquoi nous allons demander la deuxième tranche pour continuer le travail.
Monseigneur Léonard, merci.
Le vicaire général chargé de l'économie et de finances, Monseigneur Léonard Ndjadi, répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Ainsi se termine ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Deps Vita, à la coordination Jude Mister Bilanda, à la supervision Jacques Yves Molima, présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.